Bonsoir. Processus non-roulement et d'identification des électeurs dans la province du Tanganyika, qui fait partie de la deuxième ère opérationnelle, l'enrôlement des électeurs se déroule bien. C'est le cas du territoire de Moba, alors que dans d'autres comme Kongolo, on observe quelques problèmes dans des centres d'enrôlement. À Bolomba, dans la province de l'Équateur, l'enrôlement connaît quelques difficultés, notamment techniques, logistiques et aussi des prises en charge des agents électoraux. Dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la mission de l'ONU en RDC a déployé plusieurs tonnes de matériel électoral en prévision des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui démarrent dans quelques jours. Quel est-ce que faire du déroulement de l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs à quelques jours de la clôture de ces opérations dans la première ère et deux semaines après son lancement dans la deuxième ère opérationnelle? C'est le thème de dialogue entre Congolais de ce mercredi 8 février 2023. Participe au débat Joseph Senda. Il est directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante, senior en sigle. Joseph Senda, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Blanchard Mongomba, secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito et membre de la plateforme La Moka. Maître Blanchard, bonsoir.
Bonsoir, madame Kelly.
Et Luc Loutala, analyste politique et électoral, il est chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections Simoncel en sigle. Luc Loutala, bonsoir.
Madame Kelly, bonsoir.
À Bounia, dans la province de l'Ituri, vous nous suivez sur la 104.9. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net ou encore sur Canal+, channel 572. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radioocapi.net.
Province du Tanganyika, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans le territoire de Moba se poursuit normalement, signale le chef d'antenne de la CENI, mais dans le territoire de Kongolo, des sources sur place signalent quelques problèmes dans des centres d'enrôlement. Le point avec vous, Paulin Munanga.
Dans le territoire de Moba, le chef d'antenne de la CENI indique avoir fait la ronde dans des centres d'enrôlement pour se rassurer du bon déroulement des opérations. Polycarpe Bouezo souligne que tout se déroule normalement dans le territoire de Moba, qui compte 247 centres et qui attend plus de 300 000 enrôlés.
On a fait des rondes ici au centre, même aux environs et même au-delà de 30 km, 40. On a fait le tour déjà et les opérations se passent bien. Jusque-là, pas de panne technique. Il nous reste d'avoir les feedbacks, c'est-à-dire les endroits non couverts par les réseaux. Et on va voir avec la supervision de CTT Pro, on peut avoir toutes les données du territoire. Mais on a déployé tous les matériels. À Moba, on s'attend vraiment au-delà de 300 000 candidats.
À Kongolo, par contre, le président du conseil territorial de la jeunesse constate la lenteur et la corruption dans des centres d'enrôlement. Mwanalenge Wakabambi.
Dans chaque centre, il y a des lenteurs. D'autres font 2 ou 3 jours pour être enrôlés, pour entrer dans la salle. Il faut moyenner quelque chose au niveau des surveillants.
Kalemi Polemunanga, Radio Okapi.
Malgré la prolongation des 25 jours accordés à la première ère opérationnelle, les opérations connaissent plutôt un dysfonctionnement dans le territoire de Bolomba, province de l'Équateur. C'est ce qu'a indiqué lundi le député provincial Peter Lopossé à son retour d'un séjour dans son fief électoral. Celui-ci craint plutôt la perte des sièges, puisqu'à environ 2 semaines de la fin de cette prolongation, la majorité des électeurs attendus ne se sont toujours pas fait enrôler dans plusieurs centres de Bolomba. Il dénonce aussi la mauvaise prise en charge des membres des centres d'inscription qui travaillent sans restauration. Peter Lopossé l'a dit au micro de Paul Richard Malengela.
J'ai trouvé la situation difficile de l'enrôlement et identification des électeurs au niveau de notre territoire. Vous allez voir que les machines sont à tout moment en panne. Et à Bolomba, on n'a pas un technicien pour dépanner toutes ces machines-là. Il y a même la carence des cartes d'électeurs. Vous allez voir que
Boyenge, Seferi Dianga,
un village qui est composé de plus de 11 000 habitants, et on va donner un centre 1 500 exemplaires déjà épuisés. La population ne sait pas comment elle va faire une restauration assurée. Des agents de la CENI, ça pose problème. La CENI ne prend pas en charge ses agents. Si ce système continue, moi comme parlementaire, nous n'aurons pas assez de sièges. Ce n'est pas la faute de la population. La population fréquente centre d'inscription. Tantôt, elle les trouve, il n'y a pas de carte. Tantôt, les machines ne sont pas opérationnelles. Voilà, nous demandons aux autorités nationales, surtout les présidents de la République, l'enrôlement à l'Équateur et à Bolomba en particulier pose problème.
Monsieur Joseph Senda, vous êtes directeur des opérations à la Commission électorale nationale indépendante CENI en sigle. Après avoir suivi ces deux reportages que la technique nous a balancés à l'Équateur et dans le Tanganyika, quelle est votre réaction?
Merci beaucoup, madame, pour la parole. Je profite pour saluer les co-débatteurs. En fait, j'ai suivi les réactions qui vient de Moba, qui vient de Kongolo, qui vient de Bolomba. La CENI a mis en place un système d'accompagnement de l'opération de révision de fichiers électoraux, parce que nous appelons la chaîne de supervision opérationnelle et la chaîne de supervision technique. Ce sont ces deux chaînes qui sont là pour répondre aux problèmes que rencontrent les centres d'inscription dans leur fonctionnement. Et ils apportent des solutions à ces problèmes-là. Lorsqu'il y a panne de machine, il y a la chaîne de supervision technique qui intervient, qui dépanne les machines, soit sur place dans le centre d'inscription, soit au niveau de l'antenne, soit encore à un niveau supérieur si on est à Kinshasa. C'est grâce à ça que nous sommes arrivés à ce que nous avons aujourd'hui comme nombre d'enrôlés. Il est vrai que lorsque vous passez dans un coin donné, vous rencontrez une ou deux, trois machines en panne, la tendance est de dire que les machines ne marchent pas. Alors que ailleurs, les machines sont en train de marcher. Vous prenez, je vais voir, il y a à Moba ou à Kongolo, si vous voulez. À Kongolo, nous avons devant mes papiers ici, je vois que Kongolo a 135 centres d'inscription. Est-ce que quelqu'un peut dire qu'il a été dans les 135 centres d'inscription pour dire que tous ne fonctionnent pas? Certainement que on est tombé sur l'un ou deux ou trois centres d'inscription et on dit bon, ça ne va pas. Alors que partout ailleurs, les choses peuvent marcher correctement. Et je pense que ce qui est valable pour Kongolo peut aussi s'appliquer à Bolomba. Il peut arriver qu'il y ait des centres d'inscription qui rencontrent des problèmes. Cela ne voudra pas signifier que l'ensemble des centres d'inscription de la commune ou de la circonscription de Bolomba a des problèmes. Lorsque les opérations ont commencé, les membres de centres d'inscription ont bénéficié du tiers de leur salaire. Les membres du centre d'inscription travaillent pour 250 $ et 300 $ au président du centre d'inscription. Ils ont reçu le tiers de leur salaire avant d'être déployés. Vous conviendrez avec moi que nulle part nous sommes à la fonction publique. Quand les gens vont là-bas, c'est pas l'État qui leur donne à manger. Donc ces gens-là, ils reçoivent au départ quelque chose pour qu'ils répondent aux besoins premiers. Et quand ils auront terminé de travailler, on va donner à chacun la part qui lui revient, les $250 au MCI, les 300 au PCI, et si jamais il y a prolongation, on va le faire au prorata de nombre de jours qu'on a ajouté. Donc, en résumé, nous avons des chaînes d'accompagnement, des opérations d'identification et d'enrôlement. Je parlais de la chaîne de supervision opérationnelle qui veille aux aspects logistiques notamment. Lorsqu'il y a des cartes qui manquent, il y a une procédure pour arriver à renforcer les centres d'inscription qui manquent de cartes. Un contrôleur technique territorial, il a trois centres d'inscription. Il a la possibilité de procéder à une péréquation en tenant compte du centre d'inscription qui consomme plus de cartes et du centre qui en consomme moins. Il sait bien comment déplacer les cartes de lecteur d'un centre d'inscription à un autre. À défaut, il va au niveau supérieur pour qu'un centre ne souffre pas d'un manque des cartes de lecteur. Mais vous conviendrez avec moi que lorsqu'il a terminé la péréquation pour diverses raisons et qu'il doit monter à un autre niveau, il se pourrait que ce soit un niveau un peu éloigné. Ça devra lui prendre du temps pour arriver à un autre point d'approvisionnement et pouvoir entrer et alimenter ses centres d'inscription. C'est ça qui donne l'impression qu'à un moment donné, il y a comme rupture. Non, le système est celui-là. Il y a la péréquation qui consiste à rééquilibrer les cartes entre les centres d'inscription que supervise un contrôleur technique. Si la péréquation n'aboutit pas, il monte à un niveau supérieur avec son contrôleur technique provincial qui a 12 centres d'inscription avec lui pour voir où est-ce qu'on peut prendre des cartes et les amener ailleurs. C'est ces déplacements-là qui prend beaucoup de temps et qui peut faire que quelque part il y ait des problèmes de rupture en termes de cartes d'électeurs.
Alors, donc, Joseph voilà Senda, parlant du dysfonctionnement des kits pour l'opération d'identification et d'enrôlement, c'est vrai que dans tous les centres, le problème ne se pose pas, mais c'est quand même récurrent dans plusieurs centres d'enrôlement.
Effectivement, nous avons connu beaucoup de pannes de machines, mais presque toutes ont été dépannées parce que, comme je l'ai dit, il y a une chaîne de supervision technique. Nous avons deux groupes de techniciens qui nous accompagnent, en plus des techniciens du fournisseur. Il y a des techniciens Mirou qui accompagnent. Il y a une autre équipe de techniciens en contrat avec la CENI pour accompagner justement les centres d'inscription en ce qui concerne les pannes. Nous sommes conscients qu'il y a des pannes et nous y apportons solution. Nous sommes à plus de 10e version des révisions de notre logiciel. Et au fur et à mesure, les choses s'améliorent. Vous conviendrez avec moi que si au départ il y avait un problème de photo, aujourd'hui il n'y a pas plus de problème de photo. Le seul problème qui se pose à ce jour, c'est principalement le problème d'impression. Alors le système est tellement sensible que il suffit d'une petite erreur, du papier qu'on glisse pour que ça dérange. Nous sommes conscients que ça a été très très sensible et qu'il fallait bien prendre des précautions pour que certains papiers ne passent pas au scannage, pour éviter que l'impression ne soit affectée. Donc au jour d'aujourd'hui, la panne la plus récurrente, c'est l'impression. Ce n'est plus comme on avait avant, ça chauffe, ça se coupe de soi-même, etc. Maintenant, c'est un problème d'impression, et les techniciens s'y mettent pour que on résolve toutes les pannes liées à l'impression de documents.
Un autre problème qui décourage et démotive les requérants, c'est la corruption dans les centres d'enrôlement. Quelles sont les dispositions prises au niveau de la CENI pour mettre fin à cette pratique?
Bon, vous vous souviendrez qu'il y a quelques jours, il y a un communiqué qui est passé, on a donné le numéro vert pour demander à tous ceux qui auraient constaté un cas de corruption de saisir la CENI. Il y a trois numéros qui sont passés par un communiqué officiel de membres du bureau de la CENI qui demande au public d'informer la CENI de tout cas de corruption qu'on constaterait quelque part. Je ne suis pas à la centralisation pour savoir combien de coups de fil on a reçus, mais au moins la CENI a montré sa bonne foi de lutter contre ces pratiques-là qui consistent à vendre les services ou à acheter les services. Donc nous avons mis à la disposition du public trois numéros verts pour porter à notre connaissance tous les cas de corruption à travers le pays. Voilà un peu ce qu'on peut dire par rapport à ça, mais il faut reconnaître que la corruption, c'est dans nos pratiques. C'est courant, on corrompt au stade, on corrompt n'importe où on peut, tout ça, c'est en nous. C'est pas que la CENI a réuni des gens pour qu'ils corrompent. La CENI n'a pas ramené des extraterrestres. La CENI a recouru aux Congolais avec toutes ces folies en lui, quoi. Et ça se remarque partout nous sommes, quoi. Donc, nous avons mis en place des systèmes, notamment les numéros verts, pour que on porte à notre connaissance des cas de corruption et qu'on frappe. Et vous avez vu quelque part, on a résilié les contrats de certains MCI parce qu'ils avaient corrompu. On a carrément chassé parce que ils sont tombés dans le piège de la corruption. Mais nous voulons aussi demander aux requérants qui viennent de ne pas tenter les MCI parce que les requérants, il y a des requérants qui proposent l'argent pour obtenir rapidement des services. Donc je crois que les corrupteurs et les corrompus sont punissables par la loi.
Il y a un autre problème qui se pose, Joseph Senda, ce sont les personnes vivant avec handicap qui se plaignent. Ils disent ne pas bénéficier de leurs droits dans les centres d'enrôlement des électeurs alors qu'ils sont prioritaires.
Bon, en fait ça c'est un problème de gestion de la file d'attente. Il se pourrait qu'il y ait des erreurs quelque part. Nous avons donné des instructions. Sont prioritaires les femmes enceintes, les personnes malades, les personnes de troisième âge et les personnes avec handicap. Ce sont les prioritaires que nous recevons dans les centres d'inscription. Il se pourrait que quelqu'un, pour diverses raisons, n'ait pas tenu compte de ça. Nous endossons ça parce qu'il travaille pour le compte de la CENI, mais les instructions officielles sont celles-là. Priorité aux femmes enceintes, priorité aux personnes malades, aux personnes qui ont un handicap et, dans une certaine mesure, aux personnes âgées. Il faut leur donner priorité pour être reçu dans les centres d'inscription.
Il y a un auditeur qui nous écrit, Joseph Senda, il s'appelle Mathieu. Je vais lire sa réaction. Incident à signaler à la CENI, j'espère que cela va sortir dans le rapport du jour pour le bureau Institut de la Gombe. Après mon enrôlement, je sors du bureau, un homme vient en courant pour me dire qu'on me rappelle. La machine a vomi une deuxième carte après moi. Tous les officiels de la CENI ont témoigné que c'est la première fois que cela arrive. Les quatre responsables ont décidé de me la remettre devant témoin. Ainsi, je suis porteur des deux cartes d'électeur originales. Est-ce normal?
Je ne pense pas ça normal. Je vais voir la chaîne de supervision. Cette information, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore reçu une telle information où la machine sortirait deux cartes. Non, la machine n'a pas de cartes en elle. Les cartes sont à part, elles sont introduites pour impression. Si Lopez n'a pas introduit une autre carte, je ne vois pas comment il en sortirait deux.
Il a donné l'adresse, sur le bureau de l'Institut de la Gombe.
Oh oui, j'ai noté Institut de la Gombe. Je veux voir comment ça s'est passé. C'est la première fois qu'on apprend ça. Quand vous passez, vous voyez très bien que le contrôleur technique sort une carte. Il prend une carte ailleurs. Il l'introduit, elle ressort imprimée avec les informations. Il n'y a pas une carte dans une machine. Et nulle part, il n'y a pas une place où on peut avoir une carte. Les cartes sont en dehors de la machine, on les introduit au fur et à mesure. Mais qu'il y ait une deuxième qui sort, il faut qu'on nous dise exactement ce qui s'est passé. C'est la première fois et je n'ai pas reçu ça dans les faits saillants pour qu'on l'examine en profondeur.
Luc Loutala, vous êtes analyste politique électorale, vous êtes chargé de communication de la synergie des missions d'observation citoyenne des élections. Simoncel en sigle. Luc Loutala, ce sont les mêmes problèmes qui reviennent un peu partout, hein, dans les centres d'enrôlement à travers les aires opérationnelles qui font déjà l'opération d'enrôlement et d'identification. Votre lecture par rapport à toutes ces plaintes des requérants?
Ouais, madame Kelly, Monsieur Senda, merci. Je pense qu'il y a trois choses que je vais dire. La première, c'est d'abord rappeler une mission d'observation électorale. Son travail consiste en quoi? La deuxième, c'est revenir un tout petit peu sur la méthode d'observation de la Simoncel. Et la troisième, revenir un tout petit peu sur éventuellement ces difficultés qui font l'objet de nos débats et de nos échanges, quoi. Bon, la première chose à rappeler, c'est que le travail d'une mission d'observation n'est pas d'être opposé à la CENI. Une mission d'observation ne travaille pas pour détruire l'image de la CENI ou contredire la CENI. Une mission d'observation n'est pas une structure d'opposition. Une mission d'observation est plus ou moins un arbitre dans le jeu électoral pour voir si les choses se déroulent selon les règles. Et elle accompagne le processus électoral en faisant des recommandations spécialement à la CENI et aux parties prenantes pour que le processus, les parties prenantes, tiennent compte de ces recommandations et essayent d'améliorer autant que cela est possible le processus afin qu'il devienne beaucoup plus intègre. Alors, ceci entendu, la Simoncel a déployé ses observateurs sur terrain qui ont été accrédités par la CENI et elle a observé d'abord le processus de sensibilisation, deuxièmement la formation et le déploiement des agents électoraux et troisièmement le déroulement de l'opération elle-même. Alors, on est revenu plus ou moins dès le départ sur le problème de la sensibilisation. Ça veut dire et on va se rendre compte que jusque maintenant, surtout l'ère opérationnelle 1 a été très préjudiciée par rapport à la sensibilisation, à la connaissance des bureaux de vote, à la connaissance de ce qu'il faut faire et tout cela. Cela a été fait. On a l'impression que l'ère opérationnelle 2 aura un peu bénéficié, si vous voulez, des débats sur le déroulement de la RFE, donc l'opération d'enregistrement et révision du fichier électoral, qui s'est déroulée dans l'ère opérationnelle 1. Alors, en ce qui concerne la formation, le déploiement des agents électoraux, ce qui a été observé, c'est que dans l'ère opérationnelle 1, c'est juste à la veille que les formations ont été terminées, hein, dans certains endroits. Bon, évidemment, dans l'ère opérationnelle 2, on comprend que les formations ont eu le temps de se terminer de façon tout à fait normale. Le déploiement dans l'ère opérationnelle 1 s'est fait de façon graduelle. Ça veut dire là où ça a commencé le 24 décembre, dans les chefs-lieux, la plupart du temps, il a fallu peut-être attendre deux semaines ou 10 jours pour que, dans les territoires, on ait le déploiement. Ça veut dire, ça s'est pas fait au même délai. Bon, troisièmement, par rapport au déploiement des agents, je pense que Monsieur Senda est revenu plus ou moins là-dessus. On a observé qu'il y avait une carence de prise en charge. Ça veut dire, il y a des agents qui étaient, si vous voulez, déplacés pour aller en mission. En fait, c'est des agents en mission. Quand un agent de la CENI quitte son endroit d'habitation pour aller dans un autre endroit, je suppose, par exemple, quelqu'un quitte Inongo pour aller, vous voulez, à l'intérieur, ou ça peut être à Kalemi pour aller ailleurs. Cet agent est en mission et donc ces agents sont partis avec les frais des transports d'après les informations que nous on a pu récolter dans certaines provinces. Les superviseurs, ceux qui doivent en fait faire les courses, aller superviser, appuyer les membres des centres d'inscription, avaient reçu un montant de $50 et cela a posé problème. Il y a eu des endroits où il y a eu des révoltes, mais de tendance plus ou moins générale, il y a eu plus ou moins ce problème de plus ou moins mauvaise prise en charge ou mauvaise appréciation des conditions de travail. Et ça a des conséquences notamment sur ce qu'on est en train de décrier sur la corruption. Cela a fait l'objet des rapports. Sur les déroulements lui-même, l'ère opérationnelle 1 a connu vraiment le retard de déploiement de matériel. Et si les bureaux de vote avaient ouvert le premier jour en retard, on a l'impression que pour l'ère opérationnelle 2, ce problème ne s'est pas posé, a été corrigé. Ça veut dire que la CENI a, plus ou moins qu'on le veuille pas, pris certaines mesures d'amélioration de la façon dont les opérations doivent se dérouler. Maintenant, il faut revenir sur les grandes observations, notamment les questions techniques et les questions des gaps. Ce problème est crucial pour une simple raison. La révision du fichier électoral va constituer ce qu'on appelle l'électorat. Et la CENI a défini, si vous voulez, le niveau d'atteinte de l'électorat, ça veut dire le nombre d'électeurs qui doivent être enrôlés. Et donc, dans le déroulement des opérations, nous, mission d'observation, nous observons en nous disant, si les choses se déroulent de la façon dont elles se déroulent, est-ce que la CENI va atteindre l'objectif ou les objectifs qu'elle s'est fixés? Or, on a observé la lenteur, non seulement sur le plan technique, on a observé que l'opération pré-RAP CENI a posé de problèmes. On a observé que rarement les centres ont atteint les niveaux, les gaps, si vous voulez, les gaps journaliers d'inscription qui étaient attendus. On a observé que il y a eu une démotivation de la population.
Et donc,
on n'a pas atteint le gap. La conséquence, c'est que la CENI a pris une mesure qui était totalement rationnelle. Et la prolonger dans l'ère opérationnelle. Hein, parce que pour la CENI, il faut absolument atteindre le gap. Alors, en prolongeant dans l'ère opérationnelle, il y a une question majeure qui se pose. Et à ce niveau, la CENI reste muette et la CENI ne répond pas. Premièrement, quelles sont les mesures de rectification que la CENI a effectivement prises qui permettent de garantir que tous les problèmes qui ont été soulevés ont été résolus et que maintenant on va reprendre un flux régulier pour atteindre le cap que la CENI s'est fixé. On pense qu'il y a là un véritable défi sur lequel c'est pas une question de cribler la CENI, non, la CENI doit prendre ses responsabilités mais aussi les autres parties prenantes. Il faut absolument remotiver l'électorat, mais il faut que la CENI, qui reste le garant, l'institution d'appui à la démocratie, responsable de la consolidation de la démocratie, explique de façon claire quel est le travail qu'elle fait, qu'elle soit comprise, ce qu'elle n'arrive pas à faire pour le moment et qui pose problème.
Blanchard Mongomba, vous êtes secrétaire général de Nouvel Élan, parti politique de l'ancien Premier ministre Adolphe Mouzito et membre de la plateforme politique La Mouka. Comment vous analysez les déroulements de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs à quelques jours de la clôture de cette opération dans la première ère et deux semaines après son lancement dans la deuxième ère opérationnelle?
D'abord, Madame Kelly, il faut avouer que la question elle est d'autant plus technique que je ne saurais intervenir avec la même technicité que les deux précédents intervenants, c'est-à-dire M. Tassini de la société civile. Mais qu'à cela ne tienne, en tant que parti politique, nous sommes partie prenante, nous ne pouvons pas nous empêcher de constater tout le problème que les deux précédents co-débatteurs viennent de relever tout à l'heure, le problème technique en ce qui concerne les machines, le problème de la lenteur en ce qui concerne les agents censés faire enrôler les citoyens qui viennent dans différents centres d'enrôlement, mais également le problème lié à la motivation de certains agents. Et là, la grande question que nous nous posons est celle de savoir si effectivement la CENI sera-t-elle à même, à mesure d'atteindre le chiffre prévu, le chiffre qu'il avait proposé. Donc ça, c'est juste en tant que partie prenante la question que nous nous posons. Mais le plus important pour nous, c'est que la CENI respecte non seulement son calendrier, parce que dans ces calendriers, nous constatons également que les délais sont tellement compressés que lorsque, dans la première ère opérationnelle, pour avoir constaté les ratés, notamment en ce qui concerne les machines, les ratés, notamment en ce qui concerne les retards liés à la lenteur des agents et tant d'autres, la CENI a dû augmenter 25 jours pour permettre aux autres électeurs qui ne se sont pas fait enrôler de pouvoir s'enrôler. Nous nous posons la question sur l'incidence que ces délais pourraient avoir dans d'autres aires opérationnelles et par rapport même aux autres opérations prévues dans ces calendriers. Ça, c'est une question que nous nous posons, mais nous nous posons également la question sur le chiffre, parce que lorsque le 30 premiers jours prévus par la aire opérationnelle, au lieu de 18 millions d'enrôlés, la CENI n'a pu obtenir plus ou moins 7 millions d'enrôlés, qui représentait plus ou moins 30%
du chiffre que la CENI attendait. Nous nous posons la question si la CENI sera-t-elle à même d'atteindre ces chiffres-là. Mais si elle n'arrive pas à atteindre ces chiffres, est-ce que le problème est lié à l'apport de certains partenaires ou le problème c'est au niveau technique de la CENI elle-même comme organe censé se déployer pour nous donner les élections, mais aussi tout ce qui va avec avant même que nous puissions parler des élections proprement dites. Donc ce sont là les questions que nous nous posons et nous pouvons résumer en disant par rapport à cette première question que la CENI, après avoir suivi l'intervention du président de la CENI sur Top Congo il y a quelques jours passés, lorsqu'il disait que la CENI navigue à vue, nous avons comme l'impression qu'elle-même a du mal à maîtriser réellement ce qu'elle veut, ce qu'elle est censée donner à notre population. Parce que ce qui nous concerne, nous, comme partie prenante, c'est d'avoir les élections dans le délai, mais les bonnes élections. Ce qui intéresse notre peuple, c'est d'avoir les élections dans le délai et les bonnes élections. Mais le problème, c'est que pour y parvenir, l'organe technique censé nous donner ces élections doit assurer, doit nous garantir que toutes ces opérations vont se dérouler dans les conditions prévues de manière à sécuriser notre confiance et que le jour du vote, nous puissions aller en toute quiétude, non seulement déposer nos dossiers pour nous qui sommes nos partis prenantes, partis politiques, mais pour les électeurs aller voter en espérant qu'il y aura vérité des urnes lors du dépouillement. Mais si déjà la CENI sur le plan de l'organisation n'arrive pas à assurer le fonctionnement des opérations d'enrôlement, notamment en ce qui concerne les machines qui posent problème, la lenteur de ces agents, nous nous posons la question si elle-même elle est en confiance, si elle-même estime que à la fin de ces opérations, nous allons nous regarder en face et dire que la CENI a fait sa part de responsabilité et que les autres devront aussi jouer le leur. C'est ça justement la question que nous, comme partie prenante, nous nous posons.
Joseph Senda, beaucoup de préoccupations, beaucoup de questions que la population se pose sur les déroulements de cette opération d'identification et d'enrôlement. Vous allez répondre aux différentes préoccupations de Blanchard, de Maître Blanchard, Mongomba et de Luc Loutala. Mais avant d'y arriver, on sait que dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, la MONUSCO a déployé plusieurs tonnes de matériel électoral en prévision des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs qui démarrent dans quelques jours, le 16 février, si j'ai bonne mémoire. Vous allez me corriger si je me trompe. Et par rapport à ça, il y a un auditeur de l'Ituri qui demande ceci, qui dit ceci: l'Ituri et le Nord Kivu sont des provinces où opèrent les groupes armés, le matériel sont déjà déployés, ces opérations vont se dérouler dans quelles conditions?
Merci beaucoup, madame, pour la parole que vous m'aurez accordée. Avant de revenir à cette préoccupation qui vient de l'Ituri notamment, je voudrais là me faire le plaisir de dire grandement merci aux deux précédentes interventions que je trouve très pertinentes et très objectives, très constructives. La CENI a la situation de chaque centre d'inscription. Je ne voudrais pas verser ici dans les chiffres, mais je sais que il n'est pas impossible que les centres d'inscription qui présenteront un comportement tel que on puisse les fermer, qu'on les ferme. Et là, pour nous, c'est un gain dans les mesures où les techniciens vont se déverser là où les CI devront continuer à travailler. Donc, pour nous, la solution est celle-là. Les centres d'inscription qui auront visiblement épuisé les électeurs attendus devront être fermés. Par contre, les centres d'inscription qui auront encore des électeurs à absorber seront pris en charge par le surplus des techniciens qui seront libérés. Donc par rapport à ça, nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Je n'ai pas dit que nous n'avions pas d'inquiétudes. Nous n'avons pas beaucoup d'inquiétudes. Mais la plus grande préoccupation, c'est qu'il nous faut forcément atteindre un certain seuil des électeurs attendus. Je ne vais pas dire combien, ça c'est en interne, mais nous en sommes conscients. Il y a un seuil admissible que tout le monde peut accepter, que tout le monde peut consommer facilement. Quand je parle tout le monde, je pense principalement aux autres parties prenantes, en particulier les politiciens. Nous, en interne, nous savons très bien que, en deçà de tels chiffres, c'est difficile de faire accepter. Au-delà de ça, ça peut passer. Les arguments, nous les avons. Donc, voilà ce que je peux dire à ce niveau.
dès lors que nous avons la situation de chaque centre d'inscription, du fonctionnement de chaque centre d'inscription, des difficultés que rencontre chaque centre d'inscription, l'autorité, la CENI, va devoir décider des CI qui peuvent fermer à la date indiquée et de ceux qui pourront continuer parce qu'il faut forcément que chaque centre d'inscription arrive à recevoir l'ensemble de l'électorat pour lequel il a été implanté à un endroit donné. Et l'appui sera considérable, d'autant plus qu'il y aura des techniciens qui auront été libérés du poids des centres d'inscription fermés. Donc par rapport à ça, voilà une des pistes de sortie. Alors pour revenir à la préoccupation de l'Est du pays, nous revenons sur ce que nous avons toujours dit. Il existe un plan opérationnel de sécurisation du processus électoral. La sécurité des élections, c'est la police nationale congolaise. La sécurisation des élections, c'est l'armée. La sécurisation des élections, ce sont les non-apparents, notamment l'ANR, etc. Nous sommes continuellement en réunion avec eux, et d'ailleurs cet après-midi, nous devrions avoir une réunion avec la Direction générale des migrations. Nous avons été pris par ce qui se passe là, mais nous avons des stratégies qui sont montées pour que les élections arrivent à se passer. De la même manière que la campagne de vaccination se déroule, de la même manière que les examens d'État se déroulent, de la même manière nous allons faire en sorte que l'enrôlement s'efface aussi. Il y a des stratégies qui sont déjà conçues, que nous ne pouvons pas mettre sur la place publique en ces lieux, mais nous avons à cœur à ce que tout le monde puisse bénéficier des services de la CENI. Au cas où on serait dans l'impossibilité de le faire, on le dira à l'employeur qui est l'État congolais, à notre patron qui est l'État congolais pour dire, pour telle ou telle raison, nous ne savons pas le faire, assurons-nous la sécurité. Parce qu'en fait, la sécurité, comme je le dis, c'est le gouvernement de la République, c'est le ministère de l'Intérieur, c'est le ministère de la Défense qui doivent nous assurer la sécurité. Nous sommes optimistes, nous avons le souci de servir l'ensemble de la population congolaise, mais les difficultés sont là et nous avançons avec les autres parties prenantes. Multiples réunions tenues jour et nuit avec le ministère de l'Intérieur, avec le ministère de la Défense nationale, pour que nous trouvions les voies et moyens de pouvoir apporter solution à beaucoup de problèmes. Mécanisme national du suivi des accords d'Addis Abeba, tout ça, nous sommes permanemment en réunion avec eux pour voir comment arriver à servir tout le monde. Nous savons qui est des déplacés, nous les avons identifiés, nous savons là où ils sont. Nous sommes en train de réfléchir à la possibilité d'amener leur centre d'inscription là où ils sont, de les regrouper par point de départ pour les servir. Ce sont des points sur lesquels on ne peut pas s'étaler, mais nous savons qu'il y a des déplacés. Nous savons là où ils sont, et ils viennent d'où, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux. Là, nous le savons, mais nous ne pouvons pas le dire là où nous sommes en ce moment. Voilà un peu, madame, ce que je peux dire par rapport à ça. Donc, je me réjouis, je remercie sincèrement les deux interventions de la société civile et du parti politique. Nous sommes contents, c'est objectif, c'est pertinent. Nous en faisons notre.
Il y a un auditeur qui nous écrit depuis Bukavu, Robert Bahomé, qui pense que les problèmes et les difficultés que rencontre la CENI par-ci par-là traduisent la mauvaise planification de ses opérations. Il pense que la CENI ne devrait pas être pressée à cet effet. Il fallait que la CENI se donne suffisamment de temps de préparation pour que les choses se déroulent normalement.
Bon, disons que le minimum, la durée minimale qu'il faut pour organiser un cycle électoral, c'est 36 mois. Au minimum 36 mois. L'équipe en place n'a que 26 mois. Et ça ne dépend pas d'elle. Ça dépend de toutes les transactions qui ont lieu avant, au point que on a perdu 28 mois. Maintenant, il n'était pas de la responsabilité de CENI de dire « bougez le délai, allons au-delà du délai constitutionnel ». Ça, c'est pas la CENI, c'est pas de la compétence de la CENI. Ça peut se faire à un autre niveau. La CENI a voulu servir la République au bout de 26 mois, parce qu'en fait, l'équipe est entrée en fonction en octobre 2021. Un petit calcul au décembre 2023, ça nous fait 26 mois. Donc 10 mois de moins par rapport à la durée minimale, 36 mois pour organiser un scrutin, un processus électoral plus ou moins régulier, plus ou moins normal.
Merci Joseph Senda. On va donner aussi la parole aux autres intervenants. Alors, Luc Loutala, vous avez suivi la réaction de cet auditeur de Bukavu. Qu'est-ce que vous en pensez?
Il y a des erreurs que la CENI endossera pour ce processus. C'est notamment dans quelle façon elle aura consolidé la démocratie. Et la CENI a commis des erreurs dès le départ. J'ai suivi Joseph Senda qui parle de 26 mois. La CENI a commencé par des opérations sans planification. Et donc ça, c'était d'abord une première erreur monumentale qu'elle aura du mal à corriger. Deuxièmement, elle a dépensé 26 mois et il lui restait 11 mois Elle a été obligée de sortir un calendrier électoral. Donc pendant les 26 mois, elle a fonctionné avec une feuille de route, alors que toutes les parties prenantes réclamaient, et nous, la CIMOCEL, nous avions réclamé en ce moment-là, qu'il y ait le calendrier, qu'il y ait le budget. Et la CENI n'a répondu à ça que 11 mois. Alors, c'est aussi la responsabilité de la CENI de s'être donné 11 mois. C'est elle qui s'est donné 11 mois, parce qu'elle a, elle pouvait se donner 24 mois, elle pouvait se donner 30 mois. Mais elle s'est donné à elle 11 mois pour sortir le calendrier. Et même en sortant le calendrier, elle ne publie pas le budget, elle ne publie pas son plan logistique. Ça veut dire en même temps, elle ne nous aide pas, nous, les autres parties prenantes, à comprendre ces difficultés. Par exemple, combien a coûté une machine? Par exemple, quel est le budget, comment elle compte, combien d'avions elle va affecter, combien de ceci elle va affecter. C'est pas des données, des secrets de boîte, mais c'est nous permettre de comprendre. Et là, c'est l'autre erreur de la CENI, d'être moins transparente et donc moins communicante par rapport aux éléments qui nous permettent de comprendre comment elle gère le processus électoral. Et donc, je pense que la CENI devrait faire attention à ce que son image reste celle d'une institution d'appui à la démocratie. Et ça, ça devient un véritable dépouille pour la CENI actuelle, parce que, vous le voyez, hein, d'opinion publique, n'importe où, la CENI a du mal à défendre son image d'un acteur impartial qui gère de façon professionnelle, de façon apaisée, en associant les parties prenantes. Et je pense que la question de cet auditeur va dans ce sens-là. La CENI aura véritablement du mal à gérer correctement les choses dans le délai qu'elle s'est donnée, mais elle est obligée d'arriver à ce défi.
Maître Blanchard Mungomba, en parlant de timing, il y a cet auditeur Chouk Mouigiroua depuis Kolwezi dans la province du Lualaba qui pense qu'avec des tels problèmes organisationnels ça et là à travers le pays, beaucoup de Congolais risquent de ne pas s'enrôler si la CENI maintient son timing tel que défini dans son calendrier.
Non, mais moi, je pense que les Congolais sont très avisés, les Congolais sont aujourd'hui très matures, en ce sens qu'ils surveillent de près ces opérations électorales, parce que, comme vous le savez, après avoir connu 3 cycles électoraux dans notre pays, nous ne pouvons pas rester les mêmes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CENI doit assumer sa part de responsabilité, parce que il est bien bon de citer les autres, de pointer les autres du doigt par rapport à leurs responsabilités. Mais la CENI elle-même doit reconnaître que effectivement nous avions, nous de la résistance, nous de l'opposition, nous avions demandé en son temps que les choses soient transparentes de manière à ce que nous puissions assumer ensemble lorsqu'il y aura tel ou tel autre problème. Mais malheureusement, les choses n'ont pas été comprises de cette manière-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la CENI se retrouve devant ses responsabilités. Et nous, ce qui nous concerne, comme je l'ai dit à l'entame de mon propos, c'est que nous attendons les bonnes élections et surtout dans le délai. Et pour ça, la CENI est devant ses responsabilités. Elle doit travailler, elle doit montrer toute sa technicité. Mais malheureusement, je me répète encore, lorsque le président de la CENI a reconnu que son organe est en train de naviguer à vue, effectivement, je crois que l'intervenant de la CIMOCEL l'a dit aussi, c'est que la CENI ne s'est pas donné les outils techniques, ne s'est pas donné le timing, ne s'est pas fait accompagner de partenaires qui pouvaient justement le faciliter à dire des choses telles qu'elles sont, et que la pression vienne non pas d'elle, mais plutôt des autres partenaires auprès de ceux qui sont censés l'accompagner sur le plan, par exemple, du budget, sur le plan technique, pour que les choses aillent mieux et surtout dans le délai. Mais malheureusement, la CENI s'est présentée seule comme l'organe qui pouvait avoir les solutions en elle-même. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Et malheureusement, la CENI sera devant ses responsabilités. Aujourd'hui, par exemple, s'il faut parler en termes de chiffres, je constate que dans la première ère opérationnelle, alors que la CENI s'attendait à 17 millions d'enrôlés, à ce jour, nous avons jusque-là plus ou moins 12 millions d'enrôlés. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est de savoir, est-ce que avec le 10, en tout cas 15 jours qui nous restent, elle sera-t-elle en mesure de faire enrôler près de 5 millions de lecteurs ou de citoyens qui restent encore à se faire enrôler.
Merci.
Est-ce que, donc, mes questions restent pendantes. Je pensais avoir de réponses auprès du représentant de la CENI à ces débats. Malheureusement, je n'ai pas eu de réponse. Mais moi, partant du calendrier publié par elle-même la CENI, je constate que les délais sont tellement compressés, ce qui fait que le fait pour elle d'avoir décalé déjà dans la première heure opérationnelle la date butoir, il y aura sûrement incidence dans les 2 heures qui restent, et ça va impacter sur le délai constitutionnel. Et ça, je ne pense pas que ce soit la responsabilité du gouvernement ou des partenaires au niveau international. C'est la responsabilité de la CENI, et pour ça, elle doit s'assumer.
Merci, maître Blanchard Mongomba. On va considérer cela comme votre conclusion, Joseph Senda. On revient sur le timing. Il y a un auditeur qui nous écrit depuis le Kasaï central. Il s'appelle Mbui Kongolo Jean-Luc. Il dit ceci: l'opération d'enrôlement et d'identification des électeurs se déroule avec beaucoup de difficultés. Le temps qui est accordé à cette opération ne suffira pas pour que toute la population centre-kassaïenne puisse s'enrôler. Est-ce possible que la CENI puisse aussi prolonger le délai dans la deuxième ère opérationnelle comme elle a fait pour la première ère?
Je voudrais bien apporter certaines précisions pour que nous puissions bien nous comprendre. Je parlais de 26 mois à partir d'octobre 2021 lorsque l'équipe est entrée en fonction. Et les 26 mois, c'est jusqu'en décembre 2023. On fait allusion aux autres partenaires. Qu'est-ce que les autres partenaires auraient fait pour qu'on gagne les 10 mois perdus? Je me pose la question, ils auraient fait quoi pour qu'on gagne les 10 mois perdus? Ça s'est négocié en amont entre acteurs politiques. L'équipe n'était pas là. C'est la classe politique congolaise qui a fait perdre 28 mois. Donc c'est pas un problème l'équipe de la CENI. Et même si les autres seraient intervenus, ils auraient fait quoi exactement? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est bien dit, la seule activité critique que nous avons, c'est l'adoption de la loi portant répartition des sièges qui dépend de l'Assemblée nationale, qui dépend de la prochaine session qui commence le 15 mars et qui s'arrête au plus tard le 15 juillet. Donc pendant 4 mois, il faut que la CENI arrive à faire adopter la loi portant répartition des sièges. Pour les autres activités, il n'y a pas une contrainte légale, ce n'est pas une activité critique. Et je viens préciser que dès lors que nous aurons identifié les centres d'inscription que l'on peut fermer, il se dégagera des techniciens qui vont l'appuyer ailleurs pour que nous puissions arriver à obtenir tout le monde.
Supposons alors, que ça soit. Par rapport au timing, on n'a plus beaucoup de temps, Monsieur Senda. La préoccupation de l'auditeur du Kasaï central.
Mais madame, aujourd'hui nous sommes en train de gérer 2 aires opérationnelles. Une aire va sortir du champ, nous allons continuer avec 2 autres aires opérationnelles. Ce n'est pas tellement un problème, parce que d'ici là, la 3e aire va commencer, nous aurons au même moment la 2e aire opérationnelle. Nous aurons 2 aires qui se partagent la même durée, donc je ne vois vraiment pas où est le problème. Quand bien même on ajouterait, même à la dernière aire opérationnelle, si on ajoute les 25 jours, on n'est pas aussi en dehors du temps qu'il le faudra, parce que ça sera le début de la session. Ça sera le début de la prochaine session, donc on a toujours la possibilité d'avoir l'annexe à la loi portant répartition des sièges pour aller déposer au Parlement et obtenir son adoption. Donc c'est ça l'activité la plus importante, c'est ça. Et là nous avons pratiquement 4 mois devant nous, donc je ne vois vraiment pas pourquoi les gens s'inquiètent. Nous allons nous donner le temps de donner à chaque Congolais la possibilité de disposer d'une carte électeur. Et nous en avons le temps et même les moyens, si je peux me permettre, parce que j'ai bien dit qu'il y aura des techniciens qui vont se libérer dès lors que certains centres d'inscription seront fermés pour avoir consommé ou absorbé les requérants attendus.
Merci.
Ils seront libérés, ils vont aller appuyer les autres aires opérationnelles.
Merci Joseph Senda. Luc
Loutala. Moi je vous remercie madame. Moi je vous remercie.
Vous êtes rassuré par la réponse de monsieur Senda?
Oui madame, je dis 2 choses. La première, c'est que la CENI n'est pas un robot électoral. La CENI est un organe d'appui à la démocratie, et pour ce cycle, c'est sa mission, c'est vraiment de consolider la démocratie. Alors, par rapport à la loi sur la répartition de sièges, je n'ai pas besoin de rappeler à Monsieur Senda, que j'apprécie beaucoup et qui est très très efficace, que cette loi repose sur les résultats du fichier électoral qui va définir le poids, en fait, des sièges par province. Et donc, on ne va pas faire un débat là-dessus. Mais rappeler que la CENI a l'obligation de faire de ce cycle un cycle qui consolide la démocratie, qui capitalise les erreurs, qui améliore, et que la CENI n'est pas un robot électoral. Il faut garder la la flexibilité, il faut discuter de tout. Dire que les parties prenantes, qu'est-ce qu'ils auraient pu apporter, je pense qu'il faudrait revoir cette phrase parce que elle irait un tout petit peu contre tous les jeux démocratiques. Les cadres des concertations servent à ça et nous avons décrié, nous appelons la CENI à mettre véritablement des véritables cadres des concertations en place, à tenir compte de recommandations que nous faisons. C'est pour qu'on ait des élections à la fois crédibles, transparentes et apaisées et que finalement ce soit la République et la population, la démocratie qui gagne.
Merci Luc Loutala, Dialogue entre Congolais, c'est fini. Merci à Guy Maté qui l'a réalisé. La mise en onde était assurée par Jean-Noël Mokondo, présentation et coordination Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.